إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب القصص، يعني القصص القرآنية، وندخل اليوم في باب تكرار القصص. تكرار القصص. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. Donc il dit le cheikh Al-Uthaymeen dans son livre « Fondements du tafsir » et nous sommes toujours dans le chapitre concernant les récits coraniques, les récits dans le Coran. Concernant cette fois, yani, plus particulièrement, la répétition de ces récits coraniques. C'est-à-dire, il dit le cheikh, parmi les récits du Coran, certains n'ont été mentionnés qu'une seule fois, tel que le récit de Luqman, rahimahullah, ou le récit des gens de la caverne, ou d'autres. Mais parmi ces récits, il y en a d'autres qui, au contraire, ont été mentionnés plusieurs fois et répétés. Et cela, bien sûr, en fonction du besoin des musulmans ou des lecteurs qui lisent le Coran, des fawaïd, des intérêts scientifiques se trouvant dans la répétition de ces récits. Et en fonction également de des intérêts, encore une fois, et des profits envers le lecteur. Voyez. Et en plus de cela, cette répétition-là, où ces récits qui ont été répétés n'ont pas été répétés tout le temps de la même manière. Au contraire, tu vois des fois qu'ils sont mentionnés de manière détaillée ou longue, et à d'autres moments ou d'autres sourates, ils seront mentionnés mais de manière concise et courte. Dans certaines sourates, tu verras ce récit-là qui est mentionné d'une façon yani, douce, alors que dans d'autres versets, il y aura une certaine dureté ou une certaine fermeté à travers ces récits. Et également, ces récits-là, dans certaines sourates, tu les verras mentionnés avec des détails que tu ne retrouveras pas, yani ces détails-là, dans le même récit, mais dans d'autres sourates. طيب فمن الحكمة في هذا التكرار الحكمة الأولى بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. Donc fait partie de la sagesse de justement du fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait répété certains de ses récits. Première sagesse, cela nous montre l'importance justement du récit qui a été répété. Parce que sa répétition, elle indique le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il lui accorde une attention particulière. الثانية توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. Deuxième sagesse, deuxième raison pour laquelle Allah Tabarak wa Ta'ala a répété certains de ses récits, eh bien pour appuyer ce récit-là qui a été répété, afin qu'il soit fermement ancré dans le cœur des gens. طيب الثالثة مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز وشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في سور المدنية. Troisième raison pour laquelle certains récits sont répétés et répétés dans le Coran al-Karim, eh bien le fait de prendre en considération l'époque, le temps et l'état de ceux à qui Allah Jalla wa'ala il s'adresse. C'est pour cela que, concernant par exemple les sourates qu'on appelle al-Makkiyah, c'est-à-dire celles qui ont été révélées avant la Hijra, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que dans les récits coraniques, il y a une certaine concision et une certaine dureté ou fermeté, yani de façon générale. Alors qu'au contraire, dans les sourates que l'on dit al-Madaniya, les sourates révélées après la hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ces sourates ou ces récits seront au contraire plus détaillés hein, et contenant moins de dureté et moins de fermeté. الرابعة بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. Quatrième raison, l'exposé de l'éloquence du Coran al-Aziz dans la manifestation de ces récits, tantôt cités d'une manière et tantôt d'une autre manière, tout ça en fonction de l'état et de la situation. Donc cela nous montre l'éloquence suprême de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Al-Khamisa, ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. Et cinquième sagesse, la manifestation de la véracité du Coran, de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, et qu'il vient bien sûr de notre Seigneur tabarak wa ta'ala. Vu que tous ces récits, ceux qui ont été répétés et mentionnés à maintes reprises dans le Coran, eh bien, malgré leurs plusieurs ou leurs nombreuses mentions, eh bien, on ne trouve aucune contradiction et aucun paradoxe dans tous ces récits-là, malgré le fait qu'ils aient été yani, répétés plusieurs fois dans le Coran al-Karim. طيب. وهناك مسألة قد ذكرها الشيخ الشثري حفظه الله تعالى. قال من المسائل المتعلقة بهذا هل يجوز وضع تمثيليات تلفزيونية للقصص الواردة في القرآن؟ هل يجوز وضع تمثيليات تلفزيونية للقصص الواردة في القرآن؟ فيقال هذه تمثيلية مأخوذة من القرآن أو لا؟ فنقول لا يجوز، لا يجوز ذلك، وهذا من المحرمات. لماذا؟ لعدد من الأسباب. أول ذلك أن نقل أساليب القرآن بهذه التمثيليات لا يمكن أن يكون مطابقا للأسلوب القرآني، بل لا بد فيه من اختلاف، فإن أساليب القرآن لا يمكن تطبيقها بمثل هذه التمثيليات. On va parler maintenant d'un sujet, d'un point qui est lié à ce chapitre et qui a été mentionné par le Cheikh Chethri, hafidhahullah ta'ala. Il dit, est-ce qu'il est permis de faire ou de produire des séries télévisées ou des films hein, qui se passeraient à la télévision ou même des pièces de théâtre, voyez, afin de reproduire ces récits coraniques que l'on retrouve donc dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. En disant que donc ces pièces ou ces films ou ces séries télévisées eh bien sont ont été pris, yani leurs histoires ont été puisées dans le Coran ou pas. Il dit les cheikhs, nous disons que cela n'est pas permis et que cela fait partie des choses interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. Pour quelle raison? Eh bien pour plusieurs raisons. La première déjà est que le fait de vouloir diffuser les styles coraniques à travers ces pièces, à travers ces films, à travers ces séries, que l'on appelle en arabe « tamthiliyat », cela n'est pas possible de reproduire les récits coraniques dans le style coranique d'une façon parfaite. Au contraire, il est obligé qu'il y ait une différence au niveau du style du récit du Coran et le style yani, du récit que l'on va retrouver dans le film ou la série télévisée. Voyez? Donc les styles, la rhétorique, l'éloquence du Coran, tu ne pourras jamais les reproduire dans ce genre de tamthiliyat. السبب الثاني أن هذه التمثيليات لا بد أن تذكر الوقائع التي تكون في هذه القصص والجزئيات التي تكون مرافقة للقصص القرآنية مما لم يذكر في القرآن. ما هي مثلا ألوان ثيابهم وما طريقة هذه الثياب وكيف يلبسونها؟ فهذا كله لا بد أن يورد في مثل هذه التمثيليات، وبالتالي مهما فعلوا يكونون قد قالوا على أولئك الأقوام بلا علم، فيكون كذبا عليهم وقولا بدون أن يكون مستندا على دليل. Deuxième raison. Il dit le Cheikh, Hafidhahullah, que ces tamthiliyats, ces films ou ces séries télévisées, on y retrouve forcément dedans des événements, des actions, des paroles. Et en soi-disant, dans ces récits que l'on retrouve dans le Coran, qui vont accompagner les récits du Coran. Vous voyez? Et donc, il y aura forcément des événements, des paroles, des situations qui n'existent pas dans les récits coraniques. Ils ne peuvent pas s'en tenir seulement à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Non, forcément, pour créer un film, pour créer une série télévisée, il va falloir qu'il rajoute des scènes, des actions, des paroles, voire même des personnages qui ne sont pas mentionnés dans le Coran al-Karim. Donc, par exemple, les habits des personnes qui sont dans les récits du Coran, ces habits-là sont de quelle couleur? Ou quel genre d'habits portaient-ils? Et comment les portaient-ils? Par exemple, donc tout ça, il dit les chers, on va forcément les retrouver dans les films ou les séries télévisées mentionnant ou relatant, par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, ou même de gens qui ne sont pas des prophètes comme Luqman ou autre. Taïeb. Donc, par conséquent, quoi qu'ils fassent, eh bien, ils vont forcément dire des choses sur ces gens-là sans science. Et ce sera donc un mensonge en vérité envers eux. Ce sera une parole, yani sans que cette parole-là ne repose sur une preuve quelconque. Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle il n'est pas permis de reproduire les récits du Coran à travers des films ou des séries télévisées ou des pièces théâtrales ou autres. L'amr thalif, أن هذه التمثيليات كذب، فهذا يقول مثلا أنا عزير وهو كذب ليس بعزير، وذاك يقول أنا ذو القرنين وهو كذب، والكذب ممنوع منه في الشريعة. Troisième raison logique. Eh bien, tout simplement, ces films, ces tamthiliyats, ces séries télévisées sont des mensonges. Tu verras donc un comédien dire « je suis Uzair ». C'est un menteur, c'est pas Uzair. Tu verras un comédien dire « je suis Dhulqarnayn ». C'est un menteur. L'autre, il va dire « je suis Luqman ». Et ainsi de suite. Taïeb. Et il est connu que le mensonge est une chose qui est interdite dans la législation islamique. الأمر الرابع أن هؤلاء الممثلين يمثلون تمثيليات متكررة مختلفة، ومن ثم إذا جاء شخص فمثل أهل الخير في تمثيلية سينطبع على أذهان المشاهدين سواء من الصغار أو من الكبار أن هذا الشخص يمثل الخير، فإذا جاء في تمثيلية أخرى قد يمثل دور أهل الشر، فحينئذ يقعون في تناقض، وقد ينسبون الشر الذي أداه هذا الشخص في تمثيلية الأخيرة للممثل عنه من أهل الخير في التمثيلية الأولى، فيكون ذلك نوع من أنواع الكذب. طيب، والإخبار بخلاف الواقع وقع أوهام في رؤوس الناس ليست بصحيحة، ولا تمت للحق ولا للصدق بصلة. ومن هنا فالظاهر عدم جواز وضع تمثيليات للقصص القرآنية، وأن هذا من الكذب على الله عز وجل ومن الكذب على أصحاب هذه القصص. Quatrième raison, ces acteurs ou ces comédiens, donc ils vont jouer la comédie dans plusieurs films ou plusieurs séries télévisées, différents les ou différentes les unes des autres. Donc à partir de là, lorsque tu verras un acteur qui va jouer le rôle, par exemple dans un film, il va jouer le rôle d'une personne de bien, d'une bonne personne. D'accord? Eh bien, cela va être ancré dans les esprits des spectateurs, que ce soit les enfants ou les plus âgés, que cet acteur, Yanni, représente le bien. Ça y est, parce qu'il a joué le rôle d'un personnage, Yanni, qui est une personne de bien. Mais lorsque le même acteur va faire un autre film, et cette fois va jouer le rôle d'une mauvaise personne, une personne de mal. Par conséquent, va se produire à ce moment-là un paradoxe et une contradiction. Ça y est, et il se peut donc que les spectateurs affilient le mal qu'a perpétré cette personne-là dans le deuxième film, qu'ils affilient ce mal au premier personnage qu'il avait joué dans le premier film. Vous voyez? Il y en a qui affilient ce mal à une personne pieuse ou une personne vertueuse qui a vraiment existé. Vous voyez? Et donc cela est une, encore une fois, une forme de mensonge et d'information qui n'est pas en adéquation avec la réalité, et également le fait de mettre des idées ou des illusions dans les esprits des spectateurs ou des gens qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vrais et qui n'ont rien à voir avec la vérité ou avec la véracité. Donc, en conclusion, ce qui est apparent, donc, c'est qu'il est interdit, il est totalement interdit de produire ou de créer des films télévisés ou des séries télévisées, hein, en prétendant y aller reproduire les récits que l'on retrouve dans le Coran et le Karim. Et que cela donc fait partie des mensonges sur Allah tabarak wa ta'ala et des mensonges sur toutes ces personnes y aller, dont Allah tabarak wa ta'ala a raconté leurs histoires et leurs péripéties dans son noble livre. Non. Taïeb. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى كذلك، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. On passe au chapitre suivant, Inch'Allah Ta'ala, concernant cette fois ce qu'on appelle Al-Israiliyat. Al-Israiliyat. Donc c'est quoi Al-Israiliyat? Eh bien, ce sont les informations rapportées de Bani Israël, des enfants d'Israël. Parmi, bien sûr, Al-Yahoud ou les Juifs, et ce sont les plus nombreux, mais aussi pouvant provenir des An-Nasara, des chrétiens. Et ces informations-là, provenant soit des juifs ou des chrétiens, se subdivisent en trois catégories. La première, écoutez bien, la première, ce sont les informations que l'on dit donc Israiliyat, que l'islam a confirmées, et que l'islam a attesté de leur véracité comme étant donc véridique. Exemple de cela, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam muslim d'ailleurs, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, un habr, donc un habr c'est un savant parmi les gens du livre, un habr est venu voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et a dit, ô Muhammad, nous trouvons certes, yani dans nos écrits, qu'Allah tabaraka wa ta'ala mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et la terre humide sur un doigt, et le reste des créatures sur un doigt. Et il dira, je suis El-Malik. Je suis le souverain, je suis le maître, le roi suprême. Yani, je suis le seul possédant la souveraineté absolue. Et le prophète, de rire, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que ses molaires, nawajid, jusqu'à ce que ses molaires apparurent, montrant ainsi le fait qu'il donc accréditait la parole de Sahabr, hein, de ce savant parmi les gens du livre. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a récité la parole d'Allah dans le sens rapproché. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et la terre tout entière sera dans sa poignée, dans sa poigne, le jour de la résurrection, ainsi que les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, qu'il soit élevé de tout ce qu'il lui associe. والثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. Deuxième forme de Israiliyat. Les Israiliyat que l'islam a infirmé et a attesté de leurs mensonges, comme étant donc fausses et des mensonges. Exemple, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ainsi que Muslim, selon Jabir, radiallahu anhu, qui a dit, les Juifs disaient, lorsque l'homme a un rapport charnel avec son épouse, yani par derrière, c'est-à-dire non face à face, mais yani lui, il est derrière son épouse, bien sûr, par les parties intimes, hein, et non par par l'anus, non par l'anus. Donc là, on parle des parties intimes, yani légiférer dans la reproduction et dans le coït, mais seulement dans la position où il se trouve derrière son épouse et non en face d'elle. Ils disent les Juifs, celui qui a un rapport charnel avec sa femme de cette façon, eh bien, l'enfant qui naîtra, il naîtra, yani, louche, il va loucher. D'accord? Il va loucher. Et Allah tabarak wa ta'ala, hein? Allah tabarak wa ta'ala, il a descendu donc un verset qui infirme cette parole-là des Yahoud, des Juifs, dans laquelle il dit Allah, dans le sens rapproché, vos épouses sont un champ de labour pour vous, donc allez-y à vos champs comme vous le voulez. C'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez aller vous avoir ce coït conjugal par derrière et non par devant. D'accord? Non. Et thalith, ma lam yuqirrahu l'islam. ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون توراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محظور لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري. Troisième forme d'israéliyat, les israéliyat que l'islam n'a pas confirmé et n'a pas non plus infirmé. Les israéliyat que l'islam n'a pas confirmé ni infirmé. Celle-là, il est obligatoire de ne pas y aller prendre position. C'est-à-dire de ne pas ni les confirmer ni les infirmer. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, qui a dit, les gens du livre lisaient la Torah en hébreu et ils l'expliquaient en arabe pour les musulmans. Donc les gens du livre, il disait à Abu Huraira, lisaient la Torah en hébreu et l'expliquaient en langue arabe pour les musulmans. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne croyait pas les gens du livre, mais ne les démentez pas non plus. Ni vous accréditez leurs paroles, ni vous les discréditez. Dites plutôt, dit le prophète, dites, comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ankabut, nous avons cru en ce qui a été descendu sur nous, est descendu sur vous. Yani, tout ce que Allah Jalla wa Ala a descendu sur nous et tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a descendu sur nous, nous y croyons. Donc, par contre, le fait de mentionner cette forme d'information provenant des gens du livre, information, encore une fois, qui n'a ni été confirmée ni infirmée par l'islam, il n'y a pas de mal à les mentionner, à condition bien sûr qu'il n'y a aucun interdit dedans ou que on ne sache pas, yani, que ce sont à condition, pardon, que ce ne soit pas des mensonges ou des choses que l'islam a infirmé ou discrédité. Dans ce cas-là, bien sûr, il sera interdit de les mentionner. Mais si ce sont des récits qui n'ont ni été confirmés ni infirmés, il n'y a pas de mal à les mentionner en vertu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et yani mentionnez également les récits des Bani Israël, wala haraj. Il n'y a pas de péché en cela. Et ensuite, il a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, le hadith rapporté par Al-Bukhari. وَغَالِبُ مَا يُرْوَى عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِذِي فَائِدَةٍ فِي الدِّينِ كَتَعْيِينِ لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الْكَافِ وَنَحْوِهِ. Il dit le cheikh, donc après tout ça, que la majorité des choses qui ont été rapportées des gens du livre, eh bien, ne comportent en vérité pas d'intérêt scientifique dans la religion. Comme par exemple, quelle était la couleur du chien des gens de la caverne et autre chose que cela. Donc, le fait que on pourra peut-être retrouver, par exemple, la couleur du chien des gens de la caverne dans la Torah ou l'Injil, cela n'a aucun intérêt en vérité scientifique. Non. أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ورواه ذلك البخاري عن عبد الله أيضا أن روى البخاري عن عبد الله بن عباس عفوا رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضة لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا أو لا ينهاكم أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله رأينا رجلا فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. Puis il finit ici le cheikh رحمه الله تعالى en disant quant au fait d'interroger les gens du livre sur une chose des questions religieuses, sur une question des questions religieuses. Ceci est totalement interdit. Il est interdit de poser des questions aux gens du livre sur des points ou des questions religieuses. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'interrogez pas les gens du livre sur yani, une chose, entre parenthèses, religieuse. Car ils ne vous guideront pas et sont certes égarés. Car dans ce cas-là, soit vous allez croire en un mensonge, ou soit vous allez discréditer ou démentir une vérité. Et si Moussa était vivant parmi vous, il ne lui serait obligatoire que de me suivre. Al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, a rapporté également son nom à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a dit, ô musulmans, comment pouvez-vous interroger les gens du livre sur telle ou telle chose? Alors que votre livre, qu'Allah jalla wa ala a descendu sur votre prophète, alayhi salatu wassalam, yani, est le livre le plus récent d'Allah tabarak wa ta'ala, lam yushab, et il n'a pas été modifié ou altéré comme l'ont été les livres des gens du livre. Voyez? Et il vous a dit que les gens du livre ont modifié les livres d'Allah tabarak wa ta'ala. Ils l'ont altéré, ils ont écrit des choses de leurs propres mains qui Allah jalla wa ala n'a pas révélé, n'a pas descendu. Et ils disent malgré ça, ceci vient d'Allah afin yani, d'acheter par cela ad-dunya, thamanan qalilan, c'est-à-dire ad-dunya. Donc ils ont vendu leur religion, ils ont préféré la dunya. Wallah al-musta'an. Ne vous a-t-il pas interdit, par rapport à ce qui vous est parvenu comme science, de les interroger? Après il dit, Wallahi, nous n'avons pas vu un homme parmi eux vous interroger sur ce qui a été descendu sur vous. Yani, aucun parmi les gens du livre n'interroge les musulmans sur la révélation qu'Allah tabarak wa ta'ala a descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment vous pouvez-vous interroger les gens du livre sur des questions religieuses? Allahu musta'an. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى اليوم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.